7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Sandrine Mercier.
Bonjour et bienvenue les voisins et les voisines dans une société low cost. Le 2 avril prochain, la SNCF lance Ouigo, son TGV à moins de 25 euros. Air France a créé Hop en début d'année, une offre à bas prix sur les lignes intérieures de la France. Et il y a aussi les hôtels minimalistes, les voitures sans superflu, les banques en direct. Bref, tous les secteurs de l'économie sont touchés et nos modes de consommation bouleversés. Mais comment fonctionne ce modèle? Quel est l'impact du low cost sur l'économie? Ce système est-il toujours synonyme de prix bas? Quel est vraiment l'intérêt du consommateur et à quoi doit-on s'attendre côté emploi? On en débat aujourd'hui, deux invités autour de moi, Emmanuel Combes, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur d'économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et auteur du livre Le Low Cost aux éditions La Découverte. Avec nous également Daniel Rapoport, bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes psychosociologue, spécialiste de la consommation au cabinet DRC. Alors on va commencer c'est tout de suite avec les messages qui arrivent sur Facebook. Abdoul de Côte d'Ivoire, hello mes amis, les low cost ça n'existe pas vraiment ici, on a tendance à discuter sur les prix, comme on le dit souvent, c'est à prendre ou à laisser. Babacar Touré de Dakar nous dit le low cost est encore une tromperie de la société de consommation. Au Sénégal, il y a un opérateur de téléphonie mobile qui s'est lancé dans l'offre de pack soi-disant à petit prix, mais ce phénomène entraîne une consommation effrénée à cause de l'illusion du moindre coût qu'ils font miroiter. Merci pour vos messages. On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 ou sur notre page Facebook. Et on va commencer tout de suite par l'actu, le lancement de ce TGV Ouigo par la SNCF le 2 avril prochain. Après l'aérien, voilà le train qui s'y met, ça a du sens, Emmanuel Combes?
Oui, ça a du sens, puisqu'en fait, la SNCF essaye de faire ce que les transporteurs aériens ont fait il y a 10-15 ans, c'est-à-dire un produit très très simple, très très basique, une seule classe.
Il faudra payer. On parle de troisième classe, certains parlent de troisième classe.
Une seule classe, plus de sièges. Ça veut dire aussi, on va partir d'une gare qui est en périphérie, donc des taxes beaucoup moins élevées, un petit peu comme les aéroports secondaires. Et puis, on met tout le reste en option. N'oublions pas que le low cost, c'est un produit très, très simple, très, très basique. Et tout ce qui est superflu, centré sur le nécessaire, tout ce qui est entre guillemets superflu, je le mets en option, parfois très cher.
Et est-ce que c'est optionnel? Parce que j'ai vu que ça coûte 1 euro, par exemple, pour avoir l'info en cas d'incident. Si on est coincé dans le train, il faut payer 1 euro pour avoir l'info.
Alors, on peut le voir de deux manières. On peut dire, mais c'est pas juste. Et en même temps, si vous n'avez pas besoin de cette info, pourquoi la payer? Elle était de toute façon dans le prix du billet avant. C'est comme le café dans l'avion. Si vous prenez votre café, c'est très bien. Si vous ne le prenez pas, vous l'avez quand même payé. C'était inclus dans le prix du billet. Le low cost, ça n'est pas des prix bas. Hein. Le low cost, c'est des produits très, très basiques, très, très simplifiés, centrés sur le nécessaire.
Est-ce que vous allez le prendre, ce train, Daniel Rapoport?
Rapoport, oui.
Rapoport, pardon.
Écoutez, oui, parce qu'il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est la relation actuelle des consommateurs à leurs dépenses et au prix. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de perte de confiance dans l'image prise, c'est-à-dire tout ce prix qui semble toujours cher et qui semble toujours trop cher par rapport à ce que l'on gagne, enfin à ce que l'on reçoit.
Vous voulez dire que les consommateurs maintenant demandent effectivement de payer le minimum et de choisir ce qu'ils veulent prendre d'une manière optionnelle?
Il y a eu depuis le début des années 1990, une sorte de perte de confiance, une sorte de distanciation des consommateurs vis-à-vis des grandes marques et qui leur faisait payer un peu trop cher justement toute la problématique de la séduction, de la sophistication, de la complication. Et au fur et à mesure d'une sollicitation énorme de l'offre, il y a eu une sorte de fatigue, un peu d'une consommation débridée pour revenir justement sur des choses comme Emmanuel Combes disait, de simplicité, mais aussi croisé avec de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche, et par rapport au TGV, il est évident qu'il faut que ça marche, et aussi ne pas se casser la tête par rapport au choix. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser dans tel secteur, on va choisir une offre low cost, mais on récupérera un peu plus d'argent pour un arbitrage que je ferai pour un autre secteur.
Emmanuel,
Arbitrages. Je suis d'accord avec vous, en même temps, je nuancerai, enfin, c'est complémentaire ce que je vais dire par rapport à ce que vous avez dit. Je crois qu'en fait, les consommateurs n'ont pas désacralisé la consommation. Ils ont désacralisé les fausses promesses, les promesses qu'on ne tient jamais. Vous savez, ces entreprises qui vous disent, payez, et puis vous aurez ça, 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 ça et ça, et en réalité, ça ne se produit pas. Mais en sens inverse, ceux qui tiennent vraiment leurs promesses, je pense au luxe, le vrai luxe, les marques de luxe ne craignent pas le low cost. Donc je dirais plutôt, c'est pas une désacralisation de la conso, c'est tout ce qui est commodité, tout ce qui est tombé dans le domaine de la commodité, je veux payer le moins cher possible. Par contre, j'ai toujours ces biens qui me font rêver, qui relèvent du high-tech, l'iPhone par exemple, ou du domaine du luxe. Je crois qu'on a une consommation de plus en plus polarisée. Tout ce que j'ai économisé grâce au low cost, je vais le mettre dans des marques dans lesquelles j'investis vraiment. Au fond, le low cost, il y a un côté discours de vérité. Le low cost, il promet pas grand chose. Oui, mais tiens ses promesses. Oui. Le pire, c'est de promettre et de ne pas tenir ses promesses. Et trop de marques ont promis sans tenir leurs promesses.
Alors, on va voir comment on achète effectivement des services comme ça un peu bruts de décoffrage. Le low cost s'invite aussi dans les salles de sport. On a un reportage là depuis 3 ans. Claudia Carlon a fondé Fitness Price, la forme à petit prix. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 4 salles dans Paris. Et Alice Milot a rencontré cette responsable dans son tout dernier centre et qui a ouvert il y a 3 mois dans le 14e arrondissement de la capitale. Donc on se met en tenue de sport, direction la salle cardio, où les clients s'activent sur les tapis de course, les rameurs et les vélos elliptiques.
Voilà. Donc là, tu vas pas complètement au bout. Faut pas que ça tape. Tu restes contracté, toujours en mouvement, et là, tu remontes. Et tu fais toujours 4 séries de 20. Tu n'oublies pas de respirer. Et ensuite, on passera aux abdominaux.
Je suis la directrice de tous les centres Fitness Price sur Paris, directrice, conceptrice de cette enseigne low cost que nous avons créée il y a 3 ans. Le but, c'est que nos clients puissent venir s'entraîner quasiment à moitié prix par rapport à la concurrence classique avec les mêmes prestations. Alors, nous avons 3 tarifs. Alors, vous avez l'heure matinale pour les gens matinaux, bien sûr, qui peuvent venir de l'ouverture jusqu'à midi, du lundi au vendredi. Ces personnes-là payent 289 € l'année.
En gros, quand on vient, quand il n'y a personne, c'est moins cher.
Exactement. Nous avons le full time, ça c'est 7 jours sur 7, sans restriction horaire, à 429 €. Alors que dans les autres clubs, vous l'avez 1 000 €, 1 200 €, et voire beaucoup plus, 1 600 sur certains concepts.
Comment vous faites en sorte que ce soit pas si peu cher?
Alors, le concept low cost, comme vous pouvez le constater, vous êtes venu à pied, je ne sais pas si vous êtes venu en métro, mais on est dans une toute petite rue. Tous nos centres sont pareils. Dans le 12e, vous êtes à l'étage. Dans le 9e, nous sommes dans une impasse. Dans le 18e, c'est une petite rue également.
Vous êtes cachés?
Nous sommes cachés, voilà. Ça, c'est notre gros problème. Il faut qu'on arrive à trouver des endroits pas chers au niveau loyer ou achat de murs. Quand vous arrivez dans un club de gym classique, vous arrivez à l'accueil, vous avez souvent une ou deux hôtesses d'accueil. Vous avez les professeurs en salle de musculation cardio. Donc ici, quand vous arrivez, vous avez une personne. Notre slogan, c'est du low cost chic et non pas du low cost cheap. Quand on pense low cost, quand on regarde par exemple les stations-service, ce sont souvent des couleurs criardes pour attirer l'œil des gens et que les gens se disent « Ah ben ça, c'est du low cost, vu les couleurs horribles, ça ne peut être que du low cost. » Moi, j'ai dit non. Moi, j'adore la décoration. C'est prune, taupe et gris. Et beige, voilà, tous ces tons un petit peu chauds. Hop là, c'est parti.
Mettez votre serviette. Voilà, alors, allez-y, allongez-vous. Baissez, donc là pareil, les mains derrière la tête, et vous montez doucement en serrant bien les abdos. Donc si jamais c'est un petit peu facile, on peut mettre un petit poids derrière.
Là je suis en train de faire un appareil pour muscler les quadriceps. Et donc je fais extension, flexion. Mais en fait avant j'étais inscrite depuis plusieurs années dans une autre salle, et puis j'ai découvert cette salle qui est près de mon domicile. Donc déjà c'était une chose, et puis en plus beaucoup moins cher, voilà. Donc oui, low cost, oui, ça a pesé dans mon choix. La salle où j'allais, bon, il y a plus d'activités, si vous voulez, il y a des cours toutes les heures, enfin il y a plus d'activités. Mais je veux dire, bon, moi j'en profitais pas spécialement puisque je vais pas aux cours, j'utilise uniquement les machines, donc voilà. Hein.
En fait avant vous payiez pour des choses que vous n'utilisiez pas, quoi.
Je pense. Il y avait peut-être plus de personnel, mais je veux dire, ils s'occupaient pas plus forcément de moi, non, non.
Comment vous est venue l'idée et sur quel constat vous vous êtes basé pour fonder votre business là-dessus?
Nous avons créé notre premier centre Fitness Price dans le 12e il y a 3 ans. Avant, c'était un club classique, avec des tarifs classiques. Quand la crise a commencé à arriver, on s'est dit, bon, il va falloir trouver une solution. On s'est rendu compte que nos clients ne se réabonnaient pas parce qu'ils trouvaient ça trop cher, que, ben, on sentait que ça tirait sur le plan financier. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de réfléchir, voir comment on peut faire des économies. Alors, on a constaté que la plupart des personnes qui vont dans un club de gym n'utilisent pas toutes les prestations. Par exemple, vous avez un sauna dans un club, c'est inclus dans le forfait, mais vous avez peut-être 10% des clients qui utilisent le sauna. On s'est dit, c'est un petit peu stupide de faire payer tous ces services aux clients alors qu'ils ne l'utilisent pas. Donc, on les a sortis du forfait, ce qui nous a permis de baisser nos prix. Et par exemple, l'option sauna est en supplément. Vous avez aussi l'option serviette, 79. Là, on a un pack confort pour deux options au choix, 69 pour l'année. Tout est en option, mais enfin, le principal, je dirais, les cours collectifs avec nos professeurs et l'accès aux machines, aux vestiaires, avec douche, tout ça, et il n'y a pas de supplément. C'est tout inclus dans le forfait de base.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis, on va se parler. On va se dire la vérité.
Et nos invités ont été très studieux pendant ce reportage. Ils ont pris plein de notes. Alors, on commence avec qui, Daniel Rapoport?
Oui. Alors, écoutez, c'était intéressant parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Et une qui est vraiment importante, je crois, c'est que cette histoire de Fitness Price s'adresse, enfin, complètement au bénéfice consommateur. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas forcément à elle, donc elle est dans une petite rue, il n'y a pas forcément de pub, c'est pas forcément luxueux, mais quelles sont vraiment les choses dont le consommateur a besoin, c'est-à-dire quels sont les vrais bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence de la prestation, et d'un autre côté, il y a une autonomie du client qui va choisir justement s'il a besoin de faire telle machine ou s'il a besoin de faire autre chose. Donc c'est une sorte de gagnant-gagnant.
Est-ce que ce système low cost contamine un peu tous les secteurs, Emmanuel Combes? Là, on a eu les avions, le train, les salles de sport.
Oui et non. Ouais. Oui et non. La thèse souvent répandue, c'est que le low cost envahit tout. Je pense que c'est exact en termes de secteurs pénétrés. On le trouve partout. Là où on se trompe, c'est que le low cost reste souvent très marginal en part de marché. Prenez le hard discount alimentaire, c'est 13% en France. Mais en fait, son influence est beaucoup plus importante que sa part de marché parce que, comme le disait madame tout à l'heure, il y a un rapport au prix qui va être complètement changé. Je le dis autrement, même si vous n'allez pas dans le hard discount, vous savez que ça existe. Même si vous ne prenez pas les avions low cost, vous savez qu'il y a un nouveau référentiel prix. Donc ça fait très mal aux opérateurs installés. Mais je ne crois pas à la thèse, le low cost va dominer le marché, sauf peut-être dans l'aérien, il a à peu près 40% de part de marché, c'est énorme. Dans le hard discount, 13-15%, et ça stagne. Dans le reste du marché, ça va rester 1%, 2%, peut-être 1%, mais tous les consommateurs seront au courant. Regardez la banque low cost, c'est quelques millions de comptes, 3 millions de comptes, sur 70 millions de comptes, sauf que les clients savent qu'il existe une banque dans laquelle la carte bleue est à 0 euro. Et ça, ça change leur relation.
Alors, je vais compléter un peu, disant que je pense vraiment que la relation des consommateurs à la consommation en tant que telle a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation, de déconsommation, mais il y a une autre consommation, il y a un pas de côté. Et par rapport à ça, ce que les gens cherchent, quand ils entrent dans un hard discount, ils savent ce qu'ils y trouveront. C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans un hard discount, par exemple, comme s'ils entraient dans un supermarché de luxe ou dans un hypermarché. Ils savent qu'il y aura peu de produits, qu'il y aura beaucoup moins de choix, il y aura beaucoup moins de marques, et ça ne les frustrera. Et
ils y vont pour le prix.
Et si par hasard, mais pas que, ils y vont pour la simplicité. Et ils y vont pour l'absence de tentation.
Très important.
Voilà, la tentation. Et puis d'un autre côté, il y a autre chose, c'est qu'ils y trouvent un certain sens. Parce que je crois que le consommateur, à force d'avoir une expérience de consommation depuis 20 ou 30 ans, depuis le début des années 90, donc ça fait une bonne vingtaine d'années, il a commencé à apprendre à être intelligent par rapport à sa consommation. D'un côté, il cherche un certain rêve via les produits de luxe. De l'autre côté, il cherche un certain sens, parce que pour lui, c'est très important. Et le low cost, le hard discount, quelque part, entre dans cette consommation de sens.
Et nous, on va écouter une chanson qui ne coûte rien pour l'instant pour nos oreilles, mais qui est tout à fait bonne, c'est Céla Sou, Crazy Suffering Style.
But you never gonna fit, y'all. I can see it is right with a look in your eyes. Yes, you never gonna fit, y'all. And I know you
Emmanuel Combes, vous êtes l'auteur du livre Le Low Cost aux éditions La Découverte. Alors, qui consomme ces produits low cost? Est-ce que forcément ce sont des pauvres ou il y a même des riches?
Alors, la thèse usuelle, c'est en effet de dire le low cost, c'est le marché du pauvre, c'est des contraintes de revenus. Bien sûr que c'est aussi cela. D'ailleurs, le low cost est né sur le marché de la pauvreté. Lidl, Aldi sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, dans une Allemagne détruite. Mais réduire le low cost à une histoire de revenus, c'est passé, mais complètement à côté du problème. D'abord, la banque low cost s'adresse plutôt aux catégories socio-professionnelles supérieures. L'avion, malheureusement, les personnes qui sont vraiment pauvres, non, ne prennent pas l'avion. Je suis pas sûr que les salles de gym s'adressent également aux personnes à forte contrainte de revenus. En réalité, certes, les personnes à contrainte de revenus utilisent le low cost, mais le marché du low cost va bien au-delà. N'oubliez pas, part du marché du hard discount en France, 13%, 75% des Français disent fréquenter le hard discount. Mais ils le fréquentent de manière différente. C'est le marché d'appoint. C'est le marché pour certaines courses, pas pour le reste. Je pense même que le low cost profite à ceux qui en ont le moins besoin, à ceux qui ont le temps, à ceux qui sont malins, à ceux qui savent arbitrer, c'est-à-dire aux consommateurs éduqués et informés.
Est-ce qu'on est forcément radin malin quand on va dans le low cost, Daniel Rapoport?
On n'est pas forcément radin, on est plutôt malin. Et puis je rajouterai un autre terme, c'est que l'on sait maîtriser son budget et sa consommation. Et le gros problème par rapport à la maîtrise justement du budget et à l'absence totale de l'éducation que les gens ont par rapport à l'argent, c'est qu'effectivement les gens les plus démunis au plan financier, au plan culturel, au plan éducationnel, sont ceux qui se font entre guillemets avoir le plus.
Exactement.
par des marques, parce que leur gamin veut absolument une marque et qu'ils ne peuvent pas dire non, mais aussi par rapport à toute la promesse qu'il peut y avoir derrière un rêve et qu'ils n'auront pas, etc. Donc ils n'ont pas cette capacité à jongler avec low cost, prix cher, luxe, arbitrage. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une certaine intelligence, une pédagogie de la consommation par rapport quand même, je rajouterai, à une nouvelle pauvreté à la fois matérielle et aussi intellectuelle et culturelle, parce qu'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de complexité dans l'offre, qui fait que pour se débrouiller dans tout ça, il faut vraiment le savoir et le pouvoir.
Je suis assez d'accord avec l'idée que la pauvreté n'est pas seulement une pauvreté de revenus, c'est peut-être une pauvreté culturelle. Pour être bon sur le low cost, un bon client low cost, c'est un client qui est assez éduqué, qui sait lire les conditions générales de vente pour ne pas payer les options. Paradoxalement, le low cost profite aux personnes relativement éduquées qui en général ont des bons salaires également.
Oui. Alors est-ce que le low cost c'est bon aussi ou mauvais pour l'emploi? On continue dans 3 minutes après le flash. Vous restez avec nous, Emmanuel Combes, vice-président de l'Autorité de la concurrence, et Daniel Rapoport, psychosociologue spécialiste de la consommation au cabinet DRC.